qui l'écoute et nos vies, qu'est-ce qu'elles coûtent? Les dollars s'écoulent et s'écoulent et s'écoulent quand mon pays s'écroule. Les regards se détournent. Autour c'est l'enfer, mais on me dit que sous la terre c'est le paradis qui compte pour ces massacres immondes. L'or et l'argent, le fer et le diamant, le cuivre et le coltan, toutes les merveilles du monde. Le ciel est triste parce qu'on chante tristement. La terre est triste, c'est plus une terre, c'est un gisement. Tout l'appauvrissement, toute la peine. Je ne cherche pas d'applaudissements, cherche la paix. Alors je rêve encore que tout s'arrange d'un futur transparent. Qu'un jour j'aurai 20 ans, qu'un jour j'aurai 40. Que j'aurai du talent de revoir mes parents en vie. Plus de massacres en ville. Quitter cette vie que je me téléporte. Beaucoup de sang pour fabriquer beaucoup de téléphones. Quel est le bon côté? Ça sert à rien d'avoir la terre la plus riche du monde pour y mourir de pauvreté.
Voilà, on écoutait Swad Massi avec son dernier album Zagat et le morceau Congo Connexion. Il est presque 17h30, vous écoutez Les Pieds dans la Lune, nouvelle émission culturelle sur Radio HDR 99.1 en direct tous les mois.
C'est vrai? En direct tous les mois?
Bah oui.
Tous les vendredis?
Bah, tous les derniers vendredis du mois en direct.
Très bien. Alors, un petit morceau de musique rafraîchissant. Il est beau, elle est belle, ils manient et jouent leur guitare comme des dieux du rock. Lui, Matthew, a 17 ans, elle, IC en a 19. Frères et sœurs, ils forment les Molotov. J'espère qu'ils mentent un peu sur leur âge, car un talent pareil à cet âge-là, ça frise la diablerie. Ils totalisent plus de 600 concerts, leur prestation scénique est totalement démente. Tu sors de là avec une énergie de fou et un élan de jeunesse bienfaiteur. Tu as envie de prendre ton sac à dos, prendre le premier ferry, direction le camping de Brighton, en attendant leur prochain concert. Ça tombe plutôt bien, parce qu'ils seront en concert en Brighton le 5 septembre. Je pense que je vais prendre mon sac à dos et louer un petit emplacement au camping de Brighton.
Vous avez déjà le t-shirt,
oui.
Benoît.
Bah oui, je suis un peu fan. En attendant, ils viennent de sortir leur premier album, Wasted on News. On ne peut pas dire qu'eux, ils gâchent leur jeunesse, enfin en tout cas moi je trouve, un album absolument incandescent. IC, l'aîné et bassiste du groupe, aime à dire qu'ils font de la musique de jeunes, pour les jeunes. Évidemment, je me sens concerné, hein, c'est un peu logique. Évidemment, et on est un peu totalement fan. Voilà. Aujourd'hui, on écoute « Today's Gonna Be Your Days », ce qui sera aussi un peu le jour de notre invité avec son 200e album, Fred Duval.
Or you gotta fall. feel the shame. After all, climate change quite starts to blame. So what's she gonna do? We stand still waiting to make a move. Oh, we are so great. Strike while the ice of time will be late. We'll be
invité sur Terre. Les Molotov dans les pieds dans la lune, 99.1 sur HDR, avec un morceau effectivement qui s'appelle Ce jour c'est votre jour. Alors je le dis pas en anglais parce que mon anglais est trop bon. Today's gonna be your days. C'est aussi le jour de Fred Duval, notre invité. Bonjour Fred Duval.
Bonsoir.
Alors, Victor Hugo, qui n'hésitait pas à avoir toujours un bon mot et qui avait un sens de l'amitié, des qualités que vous avez, vous aussi également, enfin pour le bon mot, et l'amitié aussi sans doute, avait qualifié Rouen en 1830, en fait, de la ville au sans clocher. Bon, je précise tout de suite qu'il n'est venu visiter Rouen qu'en 1835, donc voilà, ce qui ne... c'était pas bon. Moi, je pense que si vous avez connu, en fait, il aurait qualifié cette ville la ville de l'homme aux 200 BD, indiscutablement. Alors, Victor Hugo, c'est quelqu'un qui a de l'importance pour vous dans votre œuvre.
Oui, oui.
Et
oui.
Ma question, en fait, ma première question, c'était, est-ce que c'est pour vous important, en fait, cette ville de Rouen, là où vous avez fait vos études, hein. Je rappelle que vous avez été au lycée Flaubert, donc, qui est le lycée de rattachement en fait, des plateaux, que vous demeurez pas très très loin, à vol d'oiseau. Bon, après, ça dépend de la taille de l'oiseau. Mmh. Je ne donnerai pas le nom, parce que éviter que des fans viennent assiéger votre maison tous les jours.
Bien sûr.
Mais du coup, est-ce que c'est pour vous cette référence à Rouen dans laquelle on... Parce qu'on retrouve dans beaucoup de bandes de vos BD, dans les 200, on retrouve beaucoup d'allusions, d'évocations de la Normandie, de Rouen. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui a une importance?
Oui, ça a une vraie importance parce qu'en fait, moi, j'ai grandi dans la vallée du Cailly. J'ai toujours été très très proche de Rouen. J'y suis né. Voilà. Et puis, je pense que quel que soit le genre ou même l'art qu'on pratique, on est toujours quand même ancré dans une certaine réalité. Donc oui, j'accorde une. C'est une ville que j'aime beaucoup. En fait, j'aurais pu partir depuis longtemps. Et puis. En fait, je m'y plais, j'ai mes habitudes, voilà. Et c'est une ville vraiment passionnante, en fait, en réalité, avec une mixité, encore une certaine mixité. Moi, j'y trouve beaucoup d'intérêt. Voilà, j'y trouve mon compte, en fait. Et donc, en parler, la cité, on parle souvent de ça avec Michel Bussy, qui aussi cite souvent la Normandie, Rouen, dans ses romans. Et pour nous, c'est important de garder un pied vraiment dans l'endroit où on travaille, en fait.
Alors aujourd'hui, ce jour, le 27 mars, sort le 200e album.
Ouais.
200, c'est quand même une somme, on va dire, hein, c'est pas un petit truc. Metropolia, donc aux éditions d'Argo. Est-ce que cet album est un peu particulier, parce qu'on parlait tout à l'heure du rapport de la fiction et de l'art ou de l'expression filmique, mais dans la bande dessinée, est-ce que c'est pour vous quelque chose un peu particulier? Parce que quand on regarde en fait et qu'on lit un peu vos 200 albums, alors je rappelle que moi j'ai lu les 200 albums comme tout le monde autour de cette table, hein, donc on a quand même toujours, il y a toujours un rapport quand même à la société. On parlait tout à l'heure d'Elon Musk et puis de ses délires extraterrestres. Il y a toujours un fait social, toujours une approche un peu sociale et politique dans vos ouvrages, mais il me semble que dans celui-ci, c'est quand même particulièrement prégnant, quoi.
Oui, alors je ne savais pas que ça serait le 200e, je savais qu'il serait autour du 200e, mais c'est vrai que celui-là, Métropolia, en fait, c'est pour moi, c'est, voilà, je suis, si j'ai fait 200 bouquins, c'est que j'ai plus tout à fait 20 ans, et évidemment, l'anticipation, ce qu'on peut appeler le mouvement cyberpunk, je le pratique depuis... 35 ans en fait en écriture, et j'ai fait des séries qui s'appellent Travis, Carmen McCallum, qui étaient vraiment des séries cyberpunk où j'abordais un peu les problèmes sociétaux, les enjeux économiques. Avec Métropolia, j'ai voulu un petit peu comme j'avais fait un peu plus tôt avec Renaissance, un peu faire une synthèse de toutes ces 30 années de documentation, de recherche. Et donc là, Métropolia, disons que j'ai enlevé quelques filtres pour être vraiment faire un projet beaucoup plus politique que d'habitude, sciemment. Je pense que c'est le moment. Et puis aussi une évolution de la société, c'est-à-dire que quand j'ai commencé Carmen McCallum, Travis, il y a 30 ans, j'étais pas forcément aussi mal à l'aise qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... évidemment, il y avait des problèmes de migration, il y avait toute cette chasse aux migrants, elle existait déjà, mais là, je pense que ça a vraiment fait un tour, ça a pris un tour absolument scandaleux, et moi, c'est ma façon de dire que, voilà, que j'aimerais bien faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi, mais je fais des livres, donc voilà, je donne des choses aux gens, et puis à eux de saisir la balle, quoi.
Alors, moi, avant que Iman ne décortique ce qu'est le métier de scénariste, parce que c'est toujours un tout petit peu un mystère, hein, donc je rappelle pour tous nos auditeurs, pour l'avoir définitivement dit partout, le scénariste n'est pas celui qui remplit les bulles dans les pages de bande dessinée, parce que c'est une question, je crois, que vous avez eue quand même, on va dire, moult fois. Mais c'est quoi un scénariste? Et donc, Iman, peut-être...
Justement, oui, tout à fait. La première question que j'avais à vous poser, c'était en quoi ça consiste en fait concrètement? Est-ce qu'il y a une différence, notamment entre les scénaristes de BD et ceux de séries, par exemple?
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on va partir de la même base, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée, on va la structurer. Et puis là, à ce moment-là, ça peut donner un film, ça peut donner une pièce de théâtre, ça peut donner une BD. Pourquoi pas une chanson, d'ailleurs. Dylan a fait des chansons qui sont au moins aussi denses qu'une bande dessinée de 46 pages. La différence, elle va se faire au moment vraiment du découpage, c'est-à-dire qu'un découpage cinématographique, voilà, ça tient compte du fait qu'il y a du son, qu'il y a de la musique. La BD, voilà, c'est notre outil, c'est le rythme. C'est vraiment les cases par cases. Est-ce que le lecteur va deviner entre chaque case? C'est-à-dire l'art de l'ellipse, en fait. C'est ça, la BD. Donc l'écriture, elle change au moment du découpage. Avant, pour structurer le récit, pour structurer un peu la progression, pour définir les personnages. Là, on est très très proche du roman, du cinéma, et voilà.
D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous vous documentez ?
Beaucoup dans ma tête, en fait. C'est, voilà, depuis tout petit, j'ai plein d'idées tout le temps. Donc moi, je fais partie de ces gens qui ont tout le temps des idées. Et mon premier boulot, il consiste plutôt à trier, en fait. Ce qui va être bien, pas bien. Voilà. Après, c'est aussi... je me documente beaucoup, je lis beaucoup, beaucoup de littérature, en fait, depuis 20 ans. C'est vraiment la littérature qui m'inspire le plus, je pense. Je m'intéresse quand même à la société. Je lis beaucoup de d'essais, un petit peu. Enfin, bouquins historiques. Mais en fait, tout est bon. En fait, on peut avoir une super idée en écoutant une conversation à un comptoir de bar, quoi. C'est ça, voilà. Mais je pense que le principal élément, c'est d'être à l'écoute, en fait.
Et tout à l'heure, Benoît l'a dit, mais vous ne remplissez pas les bulles,
non,
du coup, de chaque case.
Non.
Et donc, si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, je décris au dessinateur ce qu'il y a à dessiner dans la case, et j'écris les dialogues qui seront dans le phylactère.
Et du coup, comment vous faites pour vous coordonner correctement avec le dessinateur? Parce que j'imagine que ça doit être...
Très bonne question. Alors, il reçoit ce scénario découpé avec des mots. Hein. Moi, j'écris sur un ordinateur, quoi. Je décris les choses. C'est une didiscalie comme au théâtre, en fait, mais un petit peu plus précise. Un petit peu plus étoffée, puisque je vais avoir des notions de cadrage par moment. Donc, le dessinateur, lui, à partir de là, il va faire une mise en page. Il va faire ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire un croquis de la planche. un peu dessiné vite, quoi, mais où il indique que déjà on voit bien le cadrage, on va voir si c'est une plongée, une contre-plongée, si c'est un gros plan, en fonction de ce que je lui ai indiqué. Et il va surtout faire la mise en page, c'est-à-dire que nous on parle de les bandes, c'est le terme anglais c'est strip, d'accord, le comic strip. Donc on peut faire de la BD en 4 bandes, 3 bandes, 2. Voilà. Moi j'aime bien le 3 bandes, mais le dessinateur lui après va organiser cette planche, et puis il va m'envoyer ce document, ce storyboard, et à partir du moment où on est bien d'accord, où j'estime qu'il n'a rien oublié, en général il envoie quelque chose qui est meilleur que ce que moi je lui ai envoyé, c'est-à-dire que l'idée c'est de toujours avoir mieux. Et voilà, il va faire sa planche définitive sur laquelle le dessin, la qualité de dessin arrive, et là ça va être plutôt réservé à l'émotion, justement. L'émotion au storyboard, on va pas forcément toujours la voir, parce que ça passe beaucoup par les regards, et donc au dessin définitif on va voir l'émotion qui va arriver.
Alors vous avez évoqué justement le rapport avec les dessinateurs, vous travaillez avec une foultitude de dessinateurs, parce que les dessinateurs, c'est bien connu, sont assez lents, vous travaillez beaucoup et très vite. Et donc du coup, vous avez une actualité par rapport à ça, parce que bon, il y a évidemment 200, ça se fait, enfin
oui.
Moi je trouve. Hein.
Oui, oui, oui.
Et donc il y a beaucoup de dessinateurs, alors vous avez travaillé sur plein de domaines, hein, l'anticipation, vous l'avez dit, le steampunk, la science-fiction,
le western, une
adaptation de Michel Bussy. Vraiment une somptueuse adaptation des Nymphées à Noir, parce que les Nymphées à Noir, pour ceux qui l'ont lu, bon, c'est quand même le roman de Bussy qui est inadaptable. Voilà, donc vous avez réussi à l'adapter et de manière absolument formidable. Donc quelle est votre actualité là pour fêter un petit peu ces affaires, enfin cette affaire là, ces 200 et...
Alors vraiment les 200, on va les fêter avec un libraire d'Evreux qui s'appelle BD Lib, qui est devenu vraiment un très très bon copain et qui a une grosse librairie BD à Evreux. Donc voilà, on organise une expo. En fait, dans mes 30 années d'écriture, les dessinateurs m'ont offert pas mal de planches. Donc là, pour cette occasion, je prête 30 planches qui m'ont été offertes par des dessinateurs pendant ces 30 années. Et on les rend public. Donc les gens pourront voir ça à partir du 11 avril jusqu'à fin mai. Et il y aura donc deux dédicaces. Une le 11 avril avec Ingo Römmling pour Metropolia. Et on clôturera l'expo avec vraiment la personne avec qui je travaille le plus là, depuis 10 ans. C'est MM, donc avec qui j'ai fait Carmen McCallum, avec qui j'ai fait Apogée, Renaissance. Voilà. Et donc le 20 mai, on clôturera cette expo. Voilà.
Et après, donc il y aura sur Rouen.
Alors là, après, c'est vraiment la... Ça, on en a encore peu parlé. Vous avez un peu l'exclu, là. Hein, ça commence. Ouais, on a eu l'honneur d'être invité par le Centre d'art contemporain de la Matmut, donc qui à Saint-Pierre-d'Arangeville, qui normalement expose d'art contemporain, et qui, pour les 30 années du Festival de Darnétal, consacre une expo à Renaissance et Apogée, donc MM, moi et Fred Blanchard, le designer. Voilà, on va exposer 75 planches, plus plein de choses.
Alors je demande aux auditeurs du Pied dans la Lune de le garder pour eux, hein, et de noter bien ça. Mais effectivement, donc voilà. Alors je rappelle l'actualité Metropolia, mais bon, vous avez sans doute une actualité encore récente en livres qui vont sortir. Et puis comme c'est de tradition maintenant, parce que bon, c'est la première émission, mais c'est déjà une tradition, vous avez fait un choix littéraire à nous conseiller, et un choix de bande dessinée, et un choix peut-être musical, peut-être un choix musical, mais on verra. Ouais. Mais en tout cas, un choix littéraire, ça c'est sûr. Dites-nous.
Oui, bah je... Oui, oui, alors bon, le choix, bah, y a une BD franchement dont j'ai envie de parler, c'est Terre ou Lune. Vraiment, qui est ce qu'on appelle un roman graphique absolument exceptionnel qui est sorti. J'ai envie de parler de cette BD, Jadou, parce que elle représente vraiment cette autrice, le renouveau de la bande dessinée, son avenir, son voilà. C'est pour moi, c'est vraiment le gros coup de cœur récent en BD. Ça correspond, je pense, à ce que la bande dessinée sera dans les 10 prochaines années, en fait. Voilà. Et en même temps, moi, en tant que vieux lecteur, j'ai pris une claque comme j'avais pris une claque en lisant Philémon quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'il y a un niveau poétique qui est rarement atteint en bande dessinée dans cet album, Terre ou Lune. Et vraiment, je le recommande.
Bah, de toute façon, Terre ou Lune, hein, ça s'imposait.
Ouais.
Et puis les habitantes de Pauline Peyrade. Quant au choix musical, c'est la première émission, donc on n'est pas encore tout à fait bien. C'était David Bowie, Sound of the Silence. Moi, je vous propose de l'écouter chez vous. Ça va être super. Voilà, parce que
on est un petit peu en retard.
On a un mauvais timing. En tout cas, je rappelle la sortie de Metropolia, donc Berlin 1999. Les humains sont contraints de marcher. Voilà, ça leur fera le plus grand bien, puisqu'on a tout pété ailleurs. Et que voilà, et vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et puis, également, l'œuvre de Fred Duval est accessible à la bibliothèque de Darnétal et dans toutes les bibliothèques de Rouen.
Voilà, il est 17h48. Vous écoutez Les Pieds dans la Lune, la nouvelle émission culturelle sur Radio HDR 99.1 en direct tous les derniers vendredis du mois.
Le coup de cœur culture de la team HDR.
Chers quinquagénaires, comme nous, pauvres cheveux argentés, vous vous sentez largués sur les séries tendances? Eh bien, on a une chronique pour vous. On a demandé aux jeunes de la team HDR de nous mettre à la page et de nous conseiller. Et c'est Timan qui s'y colle aujourd'hui avec la chronique de Bridgerton, des robes, des corsets à l'époque de la Régence en Angleterre, de la dentelle, des bals romantiques. Voilà ce qui fait vibrer nos jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas, Iman?
Tout à fait. Très chers amis auditeurs, sortez vos carnets de bal et vos plus beaux éventails. Si vous pensiez que la saison des mondanités était terminée, détrompez-vous, la plume la plus acérée d'HDR reprend du service. Aujourd'hui, on plonge dans les salons feutrés de la série qui a brisé tous les algorithmes de Netflix, la chronique des Bridgerton. Si vous n'étiez pas dans une grotte ces trois dernières semaines, vous avez sûrement dû voir passer la saison 4 qui vient tout juste de s'achever, nous laissant tous, et moi bien évidemment la première, absolument éblouis. Mais avant de parler de cette nouvelle salve d'épisodes, un petit rappel pour ceux qui auraient raté le carrosse, Bridgerton, c'est quoi ? Imaginez la rencontre explosive entre l'élégance de Jane Austen, celle à qui on doit Orgueil et Préjugés, et le piquant de Gossip Girl. Le tout sous le regard d'une mystérieuse chroniqueuse, Lady Whistledown, qui déshabille la haute société avec sa plume. Le génie de cette saga, produite par la réalisatrice et productrice Shonda Rhimes, que vous connaissez sûrement pour Grey's Anatomy ou bien Scandal, tient en une règle simple. Une saison égale un livre, parce que oui, Bridgerton, avant d'être une série, c'est une saga de livres écrite par Julia Quinn, et une saison égale l'histoire d'amour d'un des 8 enfants de la fratrie Bridgerton. On a eu Daphné, Anthony, Colin, le décor change, le couple change, mais l'alchimie, elle, reste volcanique. Alors pourquoi il faut absolument regarder ? C'est pas juste une série en costume avec des robes à paillettes, c'est un bonbon visuel si vous me permettez l'expression, une série qui assume son romantisme à 200 000%, qui réinvente les codes de la séduction avec une modernité assez assumée, souvent du point de vue féminin, le female gaze comme on l'appelle, c'est la femme qui n'est pas objet mais actrice. C'est aussi une série politique à sa manière, elle est saluée pour son audace et sa diversité, s'appuyant sur une figure historique fascinante, la reine Charlotte. Si elle n'est pas dans les livres originaux de Julia Quinn, Shonda Rhimes en a fait un pilier, en se basant sur les thèses, notamment d'historiens, suggérant que la véritable reine était métisse. La série imagine une Angleterre du 19e siècle, durant la Régence anglaise, où la diversité est la norme. Cette saison 4, c'est le grand retour du mystère. On y suit Bénédicte, le frère cadet, artiste et bohème, dans une quête éperdue après un bal masqué. C'est sans doute la saison la plus poétique, ma préférée si vous voulez mon avis, explorant une facette plus nocturne et artistique de Londres. On quitte les salons de thé pour les ateliers de peinture et les jardins secrets, un vrai feu d'artifice pour finir l'hiver. Mais le phénomène dépasse largement nos écrans. Netflix a transformé la série de chaque saison en un événement planétaire. Vous avez sûrement vu passer ces images sur Instagram ou peut-être même TikTok. Avant chaque lancement, Netflix organise des bals grandioses dans les capitales du monde entier, de Paris à Séoul, à Londres. Les plus grandes influenceuses sont invitées, corsets serrés et diadèmes sur la tête, à vivre une immersion totale dans l'univers de la série avant la projection des avant-premières. On ne regarde plus Bridgerton, on vit Bridgerton. La série a relancé la mode du Regency Core, transformant nos garde-robes et nos playlists. Merci les reprises classiques de Ariana Grande et Billie Eilish. Alors, verdict, sans aucun spoiler, foncez, c'est attachant, c'est beau, j'ai adoré, et ça fait un bien fou au moral. Bénédicte et sa mystérieuse Sophie vous attendent, et croyez-moi, vous ne serez absolument pas déçus. C'était votre chroniqueuse préférée, et je vous dis à très vite pour de nouveaux potins.
Merci Iman. Donc on va regarder, on peut nous, pauvres cheveux argentés.
Bien sûr, tout à fait.
On va regarder Bridgerton.
Je vous invite.
La chronique de Bridgerton.
Ouais,
on aime bien ces trucs-là. On aime bien les trucs de jeunes.
Moi je connais pas, mais je vais.
On va regarder.
Je fonce.
Deux autres coups de cœur culture de la team HDR aujourd'hui, de la lecture avec une nouvelle de l'autrice américaine Toni Morrison et de la musique avec la jazzwoman Marion Rampal qui se produit ce soir vendredi 27 mars au Conservatoire de Rouen. Vous allez voir, les deux sont liés. L'œuvre de Toni Morrison, décédée en 2019, interroge la place des Afro-Américains dans la société américaine. Prix Pulitzer pour Beloved, Toni Morrison a écrit 10 romans, des pièces de théâtre, des essais, des livres pour enfants et une nouvelle, Récitatif, publié en 1983. L'histoire de deux petites filles, l'une noire et l'autre blanche, qui se sont rencontrées à l'orphelinat. Toni Morrison joue avec le lecteur en le poussant à se poser la question de la couleur de peau des deux jeunes filles. Impossible à savoir. Aucun lecteur n'a la même réponse selon ses préjugés et sa propre histoire. La couleur est cachée. Cette Inès que vous connaissez, notre animatrice de l'émission Ici Londres sur Radio HDR 99.1, qui l'a lu pour nous. Bonjour Inès.
Bonjour Sophie, bonjour Benoît et bonjour à toutes et tous. Et oui, aujourd'hui je vous parle d'une nouvelle, une nouvelle assez courte, mais pas vraiment anodine. On suit deux filles, Tila et Roberta, qui se rencontrent dans un foyer pour enfants et qui vont se croiser plusieurs fois à l'âge adulte. Et là où c'est intéressant, c'est que Toni Morrison ne nous dit jamais laquelle des deux est de couleur, laquelle est blanche. Et du coup, en tant que lecteur, on essaie toujours de deviner ou d'essayer et on se rend compte qu'on projette plein de choses sans se rendre compte à travers cette lecture. Et au fil de leur retrouvaille, vous verrez, mais leur relation devient de plus en plus tendue, notamment autour d'un souvenir d'enfance lié à une femme du foyer nommée Maggie. Et leurs versions ne sont pas les mêmes. Et on ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé. Et c'est ce qui fait aussi cette histoire. Et ce que j'ai trouvé fort, Sophie, c'est que cette nouvelle parle à la fois de mémoire, de culpabilité, et aussi de racisme, mais de manière très subtile, presque, allez, je dirais, dérangeante. Pour finir, c'est pas une lecture facile, c'est vrai. Mais justement, c'est ce qui la rend intéressante. Et ça vous pousse, et ça nous pousse, à réfléchir sur nos propres perceptions, parfois, plutôt que tout de suite donner des réponses toutes faites, voilà, forcément, sans réfléchir. Alors, laissez-vous porter, et laissez-vous plonger, dans cette histoire.
Voilà, on vous parle aujourd'hui aussi d'une autre grande dame américaine, d'Abby Lincoln, parce que la jazzwoman française Marion Rampal lui rend hommage ce soir à Rouen. Donc, qui était Abby Lincoln, au-delà d'être une très grande chanteuse de jazz américaine? C'était aussi une autrice, une poétesse, une compositrice et une activiste. Née à Chicago en 1930 de son vrai nom Anna Marie Bouldridge, son pseudo fait référence à Abraham Lincoln, le président qui a aboli l'esclavage. Abby Lincoln est l'une des figures de proue du Black Power. En 1975, elle voyage en Afrique où son engagement est reconnu. Elle est surnommée Aminata, fiable, et Moseka en Guinée française et au Zaïre. Elle sera punie pour son engagement et sera longtemps interdite de scène aux États-Unis. Elle devient célèbre en Europe et surtout en France dans les années 90 avec une longue série d'albums produits par le français Jean-Philippe Allard. On a rencontré Marion Rampal aujourd'hui en début d'après-midi. Son septième album et son concert ce soir, Song for Abby, rend hommage à Abby Lincoln. Son album est salué à l'unanimité par la presse. Il est sorti en novembre 2025. Sachez que il y a deux jours, l'ONU, comme tu le disais Benoît au début de cette émission, a adopté le texte qui déclare que la traite des Africains réduit en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains constituent les plus graves crimes contre l'humanité. Cette résolution a été adoptée il y a deux jours, elle était portée par le Ghana. Trois pays ont voté contre, dont les États-Unis. Tous les pays de l'Union européenne se sont abstenus au prétexte d'une mise en concurrence des mémoires.